Life could be a dream. Life could be a dream.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Actu Ciné et Série. Nous sommes aujourd'hui avec Vanessa.
Bonjour Hugo.
Vanessa. Et bonjour Clément.
Bonjour Hugo, merci de l'invitation, trop cool d'être dans ton émission pour la première fois.
Merci beaucoup, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des Actu Ciné et Série pour la semaine du jeudi 1er mai au lundi 5 mai. Pour commencer, nous allons parler de Avatar Fire and Ash. Il y a maintenant 2 jours est sorti le premier aperçu, une première image du film. Et sur cette image, je vais vous la décrire, mais vous pouvez aller la retrouver sur Google si vous avez votre téléphone à côté. On voit probablement, du coup, ça serait Neytiri en colère, en train de tirer avec son arc. Donc, pour remettre dans le contexte, le film de James Cameron, évidemment, sortira ce 17 décembre au cinéma pour une durée qui dépasse, comme le deuxième l'avait fait, les 3 heures avec 3 heures et 12 minutes. Pour l'instant, le synopsis que nous avons est le suivant. Jake et Neytiri et le reste de leur famille se retrouvent dans de nouvelles aventures qui vont les amener à découvrir de nouvelles cultures. Mais tout pourrait ne pas se dérouler aussi facilement que dans le deuxième film, quand ils ont découvert le peuple Metakina. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez de la hype pour ce troisième film après avoir vu les deux premiers?
Alors, moi, j'ai suivi le projet de très près. Là aussi, j'ai vu cette image en question et je suis assez rassuré de la voir parce que jusqu'à présent, on n'avait vu que des concept art de James Cameron et j'avais fini par croire que, mais non, en fait, ce film ne sortira jamais en fin d'année tellement on avait peu d'informations. On n'a toujours pas de première bande-annonce d'ailleurs. Mais bon, James Cameron a l'air de savoir ce qu'il fait depuis le second film. Il a l'air d'avoir une espèce de ligne directrice, directive, je ne sais pas, pour les prochaines années. L'idée c'est d'en faire 5 films aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en pense? Moi j'étais assez déçu du deuxième film d'Avatar parce que je trouve qu'il est sorti beaucoup trop de temps après le premier, donc comme tu dis la hype avait un petit peu disparu, redescendu. Donc maintenant je pense que le troisième peut amener des choses intéressantes et j'ai hâte de voir ça. Mais surtout ce qui me fait la plus grande envie, ça serait de voir James Cameron faire autre chose que Avatar à l'avenir. Et d'ailleurs, c'est annoncé dans les actus de la semaine, je ne sais pas si tu l'as relevé, mais il prépare un film sur la bombe atomique.
Oui, au Japon, c'est ça.
C'est ça, et donc là...
Bon, il y a le temps, mais bon.
Il y a le temps,
mais... S'il fait Avatar d'abord.
Ouais, il me semble, alors si je ne dis pas de bêtises, peut-être tu vas me corriger, mais il a déjà tourné le 3 et il a déjà
c'est
commencé...
C'est ça, ils sont déjà en train de tourner, mais on va dire que je pense qu'on aura... des infos peut-être beaucoup plus tard.
Ouais, le gros du gros dans ce truc, c'est la post-prod en fait. Parce qu'ils sont complètement avec des capteurs numériques, les acteurs, il n'y a quasiment rien qui est vrai. Donc c'est un gros travail de montage derrière. Mais pour répondre à ta question, ouais, j'ai quand même très très hâte de voir ça. Puisque James Cameron, quand il revient avec un blockbuster, c'est toujours pour faire quelque chose de sensationnel, d'époustouflant et avec une qualité extraordinaire. J'ai l'impression, encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il veut faire évoluer la 3D. L'améliorer pour que ça
encore
soit
plus,
encore plus que ce qu'a été le premier Avatar et le second.
Après, le deuxième, La Voix de l'eau, il était très lumineux. Mmh. Il y avait, avec les océans, avec, on a découvert l'intérieur des océans, tous ces côtés-là. Il y avait la forêt, la montagne, il y avait vraiment ce côté. Et puis là, on sait que c'est la désolation et les cendres quand même.
Donc, tout est dans le sous-titre.
Ça a l'air très très sombre. Et quand tu vois la première image, tu te dis, oh, ça va, ouais, ça risque d'être assez conflictuel.
Enfin, j'ai envie de dire, parce que le deuxième, c'était vraiment un film, pas de contemplation, mais c'était vraiment les fonds marins, les baleines, tout ça. Là, j'ai l'impression que ça va être, enfin, il va y avoir des vrais enjeux sur cet univers-là, ouais.
C'est ça, le premier, c'est un peu l'introduction, on est tout le temps dans la forêt, il y a quand même les humains. Dans le deuxième, les humains reviennent un peu, mais voilà, on a beaucoup plus d'eau. Et là, on sent que ça doit être une confrontation plus entre les persos principaux et que peut-être les humains vont se retrouver peut-être un peu plus sur le côté que les deux premiers films, ouais. Ils sont tout le temps omniprésents quand même.
Possiblement, moi je ne sais pas du tout vers quoi ils se dirigent, mais mon souhait ou ma théorie, je ne sais pas, c'est que vraiment dans le quatrième ou le cinquième, ça soit les navis, c'est ça, qui viennent dans notre monde. Que ce soit un film terre-à-terre, ça serait incroyable.
Ça peut être excellent,
ça serait l'occasion.
Pour la fin, mais là on va découvrir encore une nouvelle tribu.
Bien sûr.
Donc ça aussi, ça va être intéressant de savoir leurs coutumes, leur façon de voir les choses. Et puis... ce côté, je pense qu'ils vont pas être super bien accueillis.
Et je pense pas non plus. Mais encore une fois, on ne sait quasiment rien et c'est ça qui est chouette. Moi, j'espère vraiment que le film ne sera pas reporté, qu'il sera vraiment fixé pour cette date-là, puisque ça devient finalement le rendez-vous de cette fin d'année et le blockbuster de Noël, quoi. Celui qu'on attend.
C'est ça.
C'est vrai que c'est l'année dernière, on avait eu Weekend.
Mais on aura encore Weekend cette année.
C'est ça.
Ah oui,
on
va en avoir deux. Partie 2,
ouais, c'est vrai.
On continue avec une autre actualité, cette fois-ci un peu plus en bref, puisqu'on n'a pas beaucoup d'actualité. Ryan Reynolds prépare un film avec la présence de Deadpool et de 3 ou 4 X-Men. Pour l'instant, il n'a pas proposé d'idée au studio. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Moi, j'aime bien cette idée-là, parce qu'on a quand même eu Deadpool et Wolverine où il y avait des X-Men à l'intérieur. Ouais. Mais je me dis pourquoi pas, mais je veux quand même que ça tienne la route en fonction de ce qu'il va nous proposer.
Alors là, je ne sais pas trop, parce que Ryan Reynolds, avant Deadpool et Wolverine, il avait proposé une autre idée au studio. C'était de faire un film avec un petit budget sans effets spéciaux où il était chez le psychologue, en train de parler au psychologue pendant tout le film.
J'adore.
Je trouvais l'idée originale.
J'adore l'idée.
Mais du coup, l'idée n'a pas été validée.
Pour une plateforme, ça aurait pu être sympa. Après, peut-être au cinéma.
Au cinéma, ça aurait été plus compliqué. Et là, le problème, c'est que bon, je sais, Ryan Reynolds, il a peut-être un pouvoir de producteur. Son Deadpool, il le protège. Mais après, est-ce que ça va aboutir à un véritable projet? Tout est possible. Dans la mesure où Doomsday ramène une grande partie des X-Men de la trilogie originale, Je pense qu'à partir de là, tout est possible. On nous l'a prouvé avec Deadpool et Wolverine. Il y avait déjà le retour de Hugh Jackman, bien entendu, mais on avait le retour de X-23 qui était apparu dans Logan. Je veux dire, c'est possible. Maintenant, oui, Deadpool avec des X-Men, moi, je signe complètement si c'est les X-Men de la trilo.
Bah, c'est vrai que le dernier était très bien. On a passé un super moment.
C'était chouette. Ouais.
De rire et tout. Ça sabrait certaines Disney ou autres.
Ouais,
moi, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. Et puis, on voyait des personnages, on découvrait des nouveaux personnages qui étaient coincés dans ce monde complètement assez fou. Donc là, oui. Et en plus, les X-Men, quoi.
Ouais,
les
bien
X-Men
sûr.
Enfin, je sais pas, mais tous ceux qui, comme moi, avaient les BD ou autres, enfin, il y a énormément de choses à découvrir sur les X-Men.
Oui, je pense qu'on va vivre la meilleure, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas une grande période pour les X-Men au cinéma, puisque vu que maintenant c'est Disney qui détient les droits, ils vont faire, j'imagine, une nouvelle licence avec des nouveaux visages qui vont incarner les héros qu'on connaît, mais avec cette histoire de multivers, tout est possible, on pourra toujours ramener ceux qu'on a connus avant. Et encore une fois, la preuve, hein, on insiste avec celui-là, mais Doomsday va
les
ramener...
Les anciens seront de retour.
Des anciens, mais c'est même pas les anciens de premier rang, quoi. Il y a l'acteur qui jouait Diablo, il y a l'actrice qui jouait Mystique, première du nom, quoi. Donc tout est possible à partir de maintenant, tout est possible. Moi, dès l'instant où j'ai vu Tobey Maguire apparaître sur grand écran il y a quelques années, je me suis dit, bon, bah, ils en sont capables, s'ils ont le budget, c'est possible.
On continue du côté de chez Netflix avec, donc nous, ça sera demain pour vous, ceux qui nous écoutent, ça sera, vous l'aurez peut-être déjà sorti. Il y aura un teaser pour la saison 3 de Squid Game,
yes.
Qui sortira du coup le 27 juin. J'ai très hâte de cette série. La première saison, je l'avais binge-watchée. La deuxième, on l'avait fait en deux ou trois jours avec ma femme. Et on nous laisse sur un cliffhanger à la fin de cette saison 2. Un peu une trahison, même si on s'y attendait. On la voyait venir. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire pour cette saison 3 à nous surprendre, à peut-être continuer à nous faire des jeux qu'on ne connaît pas, nous, Européens. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont réussir à faire.
Je n'ai jamais vu Squid Game de ma vie. J'en ai beaucoup entendu parler. Et hier, justement, quand j'ai vu la vidéo de l'acteur principal qui annonçait qu'aujourd'hui, il y aurait une vidéo teaser, je me suis dit, waouh, déjà, j'ai l'impression que la saison 2, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est chouette. Il n'y a pas eu un gros laps de temps entre la 2 et la 3. Donc, pour les fans, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce que tu sais si... ça sera comme pour Stranger Things la dernière saison ou au contraire ils veulent se projeter sur du long terme? Ça n'a pas été annoncé.
Non, ils n'en ont pas tant parlé que ça.
Bon, bah écoute, à suivre.
Non, ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de saison 4.
Ah
parce
ouais
que, bah, déjà, il ne devait pas y avoir de saison 2.
Il faut
revenir dans le contexte que Netflix a poussé le réalisateur.
En fait, tout dépend du succès.
Lui a donné un pont d'or pour faire la saison 2. Et donc, ils ont eu la saison 2, la saison 3. Il n'y aura pas d'autres saisons, normalement, à moins qu'ils tombent, qu'ils soient vraiment... Je trouverais ça vraiment ridicule. En plus, la saison 2 est découpée en deux parties.
Ah, ça c'est la mode chez Netflix.
Saison 2 qui fait partie 1 et la saison 3 qui sera la partie 2.
Ils vont faire la même chose pour la dernière saison de Stranger Things. Hein. Ils vont diffuser en deux parties. Il me semble même que la saison 2 de mercredi vont faire la même chose.
Ouais, j'ai peur qu'ils fassent pour, même si c'est pas Netflix, mais The Last of Us, la même chose aussi. Vu comment c'est parti.
Ah, tu crois vraiment
Ah si.
Ah non, moi je pense qu'ils enchaînent là. Ça a été annoncé pour toutes les semaines.
Ouais, en fait, oui, non, mais les épisodes, oui. Mais actuellement, la saison 3 a été annoncée. Ouais. Et j'ai 2-3 personnes qui ont joué au jeu. Et littéralement, actuellement, on est à. Bah, aujourd'hui, sorti le 4ème épisode que j'ai pas pu voir encore. On est à la moitié de la série. Et on
Plus de la moitié, je crois qu'il y a que 7 épisodes.
Oui, il y a que 7 épisodes. Et on est à littéralement 20% du jeu. Du 2.
Ouais.
Voilà. Donc très clairement, pour moi, je pense que la saison 3, ça sera la fin du jeu vidéo par 2.
Ah oui, histoire de faire durer le plaisir et d'avoir vraiment deux séries indépendantes. Non, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que c'est un truc qui est très à la mode.
C'est pas leur façon de faire. Hein. Autant Netflix l'a déjà fait et tout, les parties 1, les parties 2.
Oui, parce que Last of Us, c'est Paramount, ouais. Il me semble.
Non,
c'est
HBO.
HBO, ouais. Donc,
HBO.
Je sais pas s'ils font ça.
C'est pas leur façon de faire. Ouais. Tout le monde pensait que Game of Thrones, par exemple, il allait être coupé et que ça allait reprendre plus tard, vu qu'il devait partir sur un autre projet. Mais ça n'a pas été fait. Donc, c'est pas dans la veine d'HBO. Enfin, de ce que j'ai vu et des séries que je connais et les plus célèbres, et même celles qui sont à côté, j'ai pas vu faire partie 1, partie 2. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas. Par contre, Netflix, ils ont ce truc-là de mettre en place. Et puis, voilà, Squid Game, ça s'y confortait, franchement. Et puis, pour avoir une saison 2 et une saison 3, pourquoi pas couper l'histoire en deux, puisque dans la saison 1, on part dans le jeu et on finit le jeu, ce qui n'est pas le cas dans la saison 2. On se retrouve à un moment où on se dit « Ouh, c'est à suivre ». Donc, la partie n'est pas finie, c'est encore en stand-by. On sait qu'il s'est passé plein de choses, des affrontements, des choses qui ont été assez dures, des personnages qu'on a découverts. Donc, du coup, eux, ils ont coupé en deux et ils ont fait saison 2, saison 3. Mais normalement, la saison 3 est annoncée comme la der.
On verra le succès, si Netflix voudra encore pousser.
Ce serait vraiment dommage de pousser, parce qu'ils ont déjà poussé pour la 1.
C'est possible. Hein.
Et franchement, la saison 1 se suffisait à elle-même, même si il y avait une ouverture, même si... voilà. La 2 était tellement attendue. Il y a tellement eu de propositions, de choses. Il y a plein de monde qui ont écrit leur propre série sur la 2. Parce que tout le monde voulait y participer. Et il y a des gens qui ont été déçus. Il y a des choses qui n'ont pas été appréciées sur la 2. Et donc, je pense que pour la 3, il y a des choses qui ont dû être revues par rapport à ce qui s'est passé pour la 2. Mais à mon avis, le réalisateur, il a vraiment cette envie, et je pense qu'il l'avait déjà pour la 1, que voilà, la 3, c'est vraiment la dernière. Et même s'il pousse au cordeau, ce serait vraiment ridicule de faire une 4. Quoi. Il n'y aurait plus... Je pense que la troisième saison peut finir et nous permettre de découvrir la réalité des personnages, le passé et des choses qui sont restées en suspens à la 2.
Je ne sais même pas de quoi ça parle. je regarderai. Oui, c'est Hunger Games autrement, on va dire ça comme ça.
Ah,
c'est différent, mais
c'est un peu
plus différent. C'est un jeu où on se retrouve embarqué et tu joues ta vie.
C'est-à-dire que
si tu perds.
Après,
tu
là, ils l'ont choisi dans celui-là. Hunger Games, ils ne choisissent pas.
Ouais, dans l'idée. Oui. Mais bon. Actualité suivante, du coup.
La prochaine, c'est les premières images d'un film du nom de Cog Stealing. C'est un nouveau film réalisé par Darren Aronofsky, qui avait déjà fait Requiem for a Dream, Black Swan, encore The Whale. Au casting, nous avons Austin Butler, Matt Smith, Zoe Kravitz, Bad Bunny, pourquoi pas, j'ai hâte de le voir. Et Regina King, il sortira actuellement, il est daté pour le 27 août. Et le synopsis, il n'y a pas énorme pour l'instant, c'est un ancien joueur de baseball, Hank Thompson, plonge dans le milieu criminel du New York des années 1990.
Est-ce qu'il a un passage par le Festival de Cannes, par hasard? Il faudrait vérifier, mais j'ai entendu parler du Aronofsky. J'ai vu l'image où Austin Butler il est en train d'embrasser, où ils sont face à avec Zoé Kravitz. Très curieux, puisqu'Aronofsky, bon, déjà, il a fait un petit peu son revival cette année au cinéma, puisqu'ils ont ressorti Requiem for a Dream pour fêter le 25e anniversaire. Et c'est un réalisateur qui surprend toujours, c'est-à-dire qu'il a, il fait des films très différents, mais il y a quand même un fil rouge qui les traverse, et c'est le côté sensationnel, le côté un peu choc. Et moi, j'avais été très bouleversé par Mother en 2017 avec Jennifer Lawrence, tu vois, on parlait d'Hunger Games, et c'était extraordinaire. Donc ouais, je pense que le Aronofsky, ça reste quand même un événement, et j'ai très très hâte de voir ce film-là.
Ouais, c'est vrai que ça peut donner envie. Après, je n'en ai pas entendu parler du tout.
Il y a très peu d'informations, il y a qu'une image et tout.
J'ai pas eu vos chapitres, je sais même pas voilà si c'est prévu. C'est pas un film qui me parle avec le nom. Le réalisateur, oui, bien sûr. Mais pour le reste, j'ai rien à dire parce que je n'étais pas du tout au courant de cette annonce.
Ouais, et puis on a quand même aussi un beau casting. Enfin, je veux dire, Austin Butler, ça fait partie des acteurs des têtes montantes. Depuis Elvis, il est repassé là par Back Riders, là, le film avec les motos. Zoé Kravitz a réalisé son premier long métrage il y a peu, Blink Twice. Donc ça avait fait un sacré succès. Donc je pense que là, on est avec un très bon réalisateur, avec une très belle équipe, et ça restera toujours un événement, qu'importe la qualité du film. Donc plutôt hâte.
Moi, j'ai hâte de le voir aussi. Voilà, comme on l'a dit, le réalisateur, les acteurs sont au rendez-vous. Le synopsis, même s'il est pas énorme, mais voilà, il laisse de la place à beaucoup de choses. Je pense que s'il sort le 27 août, on va peut-être pas tarder à voir une bande-annonce d'ici quelques temps. Mais voilà, hâte de voir ce que ça peut nous proposer. Prochaine actualité, encore un casting, mais cette fois-ci français, avec le film Les Misérables de Fred Cavaillé, évidemment adapté du roman de Victor Hugo. Le tournage débutera le 21 juillet. Nous avons Vincent Lindon qui interprétera Jean Valjean, Tahar Rahim qui interprétera l'inspecteur Javert, Camille Cotin qui interprétera Madame Thénardier avec son mari Benjamin Lavergne, Monsieur Thénardier. Nous avons aussi Noémie Merlant qui interprétera Fantine, Mégane Nortam qui interprétera Cosette, Vasily Schneider qui interprétera Marius. Et nous avons deux autres acteurs et actrices qui sont annoncés, mais pour l'instant pas de rôle prédéfini, avec Marie Colomb et Saïd El Alami.
Moi, ça me fait un peu rire quand même, parce que ça doit être le 25e film qui s'appelle Les Misérables. Je trouve, je vais pas dire que c'est inutile, ça serait malhonnête de dire ça, puisqu'on a eu l'exemple parfait du Comte de Monte Cristo, qui a eu une énième adaptation et qui a été un magnifique objet cinématographique.
Et une série qui arrive prochainement et qui est vraiment bien.
Et une série qui arrive très prochainement. Donc tu vois, c'est le MCU du cinéma français, tout ça. C'est-à-dire que on réunit plein d'acteurs bankable, on leur met un univers 18e, 19e siècle. Et on en fait un film, blockbuster avec un gros budget. Donc oui, sur le papier, j'ai envie de te dire là de suite, encore Les Misérables, c'est agaçant. Mais avec le casting que tu me présentes, j'ai envie de te dire, bah oui, j'ai envie de voir ces acteurs-là jouer ces personnages-là, cette histoire qu'on connaît. Et puis ce qui est chouette, c'est que ça donne accès aussi à la nouvelle génération, à notre histoire française, à la littérature qu'ils n'ont peut-être pas encore découvert sur papier, qui vont découvrir sur grand écran. Donc c'est chouette. Le Comte de Monte Cristo, pour ma part, je n'avais jamais lu le roman. C'était la première adaptation que j'ai vue. Donc c'était chouette. Les Trois Mousquetaires, pareil. Donc on est vraiment dans une espèce de mouvance en ce moment en France où on a envie de faire des films d'époque avec des acteurs qu'on connaît. Donc pas surpris de l'annonce, et je suis convaincu que ça sera un immense succès. Donc à suivre.
Envie de refaire découvrir aussi le passé et des livres, des pans de l'histoire de France. Donc je pense que c'est aussi ça, l'envie. Voilà, c'est vrai que de plus en plus, ils voient que les anciens films ne sont pas vus par la jeune génération, et que le fait de montrer cette histoire, ces pans d'histoire ou ces légendes de France, eh bien, ça permet aux jeunes à s'intéresser à l'histoire. Enfin, pour moi, et est-ce que vous savez, petite anecdote, est-ce que vous savez qui c'est qui a fait le casting de ce film ? Qui est ? Eh bien, c'est Vincent Lindon qui a choisi les acteurs et actrices qui sont dans ce film. C'est lui qui est, il a dit « Ok, je veux bien faire le film, mais je veux faire le casting. » Et on retrouve, on parlait du comte de Monte Cristo, on retrouve un jeune qui monte, franchement, qui même, il a décroché un Molière dernièrement, là, franchement, c'est Vassili Schneider.
Eh oui.
Qui est une pépite qui est vraiment en train de
c'est toute la famille Schneider qui monte en même temps en ce moment.
Oui, mais moi je trouve ça excellent parce que tu vois, il vient de recevoir un Molière quand même, ouais. C'est pas donné à tout le monde. Et là, il est encore dans un film d'époque. Il est Vassili, de manière, il a cette tête ni chaîne ni maître. Il était dans un film d'époque. Mais j'aime beaucoup cet acteur. Et puis après, oui, Noémie Merlan, Camille Cotin aussi, qui est encore dans un film d'époque. Je parlais de ni chaîne ni maître. Elle était dedans. Et voilà, après, pareil, Benjamin Laverne, encore dans un film d'époque. Tahar Rahim. Un sacré casting quand même, hein. Ça donne envie, moi je dis.
Ah, ça fait rêver, hein, complètement. Et puis Vincent Lindon, j'ai peut-être enfin l'impression qu'il va sortir de ce personnage qu'il incarne dans tous ses films dernièrement, c'est-à-dire un personnage qui est dans un milieu parisien où tout est compliqué, où la vie est compliquée, et là ça y est, il retourne à un film d'époque, donc c'est plutôt chouette de voir ça, j'ai très très hâte.
On joue en Valjean quand même. Jean Valjean, quoi.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert la version de 2012 en comédie musicale avec Hugh Jackman qui joue Jean Valjean,
exact.
Avec Anna Thaoué, avec Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen. Enfin, il y a Amanda Seyfried, il y a un casting, j'allais dire un camembert, je suis malade. Un casting extraordinaire, mais extraordinaire. Et c'est chouette, ouais, non, c'est chouette qu'on revisite ces classiques, quoi. On ne s'en lasse pas.
Non, c'est clair. Et puis, il y a d'autres personnes. T'as cité quoi comme casting?
Vincent, Tahar, Camille, Benjamin, Noémie, Megan Northam, Vassili Schneider, Marie Collomb, encore Saïd El Alami.
Voilà, c'est ça.
Ah ouais.
Ah bah oui, Saïd El Alami quand même. Hein.
Mais
lui aussi,
bien sûr.
Hein. Une petite pépite qu'on a vue dans La Pampa. Donc non, j'ai hâte. Marie Collomb aussi, qui fait sensation dans les séries, dans Culte.
Dans Culte, ouais. C'est celle qui joue Loana?
On l'a vu dans la série Follow aussi, dans un thriller. Je trouve qu'elle a une sacrée palette de jeux, Marie Colombe.
Bien sûr, moi j'ai découvert dans Culte et c'est vrai qu'elle a quelque chose. Donc c'est une actrice qui va faire une grande carrière, j'en doute pas.
Moi je suis très content en tout cas qu'on, de plus en plus, en ce moment, avec Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, on adapte des romans français, des classiques, au cinéma. Parce que c'est vrai que... J'ai pas les chiffres en tête, mais les enfants lisent de moins en moins de livres en France. Et du coup, cela permet aussi de se dire, on va voir un film et on va prendre de la culture, même si on n'a pas lu le livre, ok. Mais au moins, on sait de quoi ça parle après, si on doit en parler. Et je trouve que c'est aussi une bonne chose de faire ça.
Ouais, mais après, même les livres sont étudiés au collège, au lycée. Et ils se servent de cette vague du cinéma pour leur faire lire Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Enfin, c'est impressionnant.
Bien
quoi.
Sûr. Et quand je m'en souviens, je crois qu'ils ont fait pareil pour Les Trois Mousquetaires, mais en tout cas, pour sûr, Le Comte de Monte Cristo, quand c'est sorti au cinéma, ils ont réimprimé les livres qu'on pouvait trouver en librairie et ils ont mis la tête de Pierre Niney, enfin l'affiche
tout
du film.
Fait.
Donc du coup, c'est un moyen. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie de com derrière. Ils avaient fait pareil quand ils avaient sorti la série Lupin sur Netflix. Enfin, on va dire que ça n'a un peu rien à voir avec Arsène Lupin, il y a un lien, mais malgré tout, ils ont ressorti les livres d'Arsène Lupin avec la tête d'Omar Sy dessus, donc je me suis dit, ça y est, c'est une bonne entrée en matière, ouais.
On continue avec l'avant-dernière actualité du jour, on va parler de Desperate Housewives, qui va avoir droit à un reboot, selon le média américain Deadline. Cette série spin-off s'appellera Wisteria Lane et aura droit à un tout nouveau casting, pas de date actuellement, mais elle sera diffusée sur Disney+.
Tu sais que je me demandais si t'allais parler de ça.
Oui, je n'ai jamais vu. Je suis désolé, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas énormément de quoi ça parle. Je connais évidemment de nom. Donc je vous laisse vous en parler si vous l'avez vu ou si vous connaissez par cœur.
C'est ma série préférée. Moi, de tous les temps, Desperate Housewives. J'ai découvert ça il y a 20 ans. Je pensais que c'était sur le papier, ça faisait penser à une série pour ménagères. Et en fait, du coup, c'est un petit thriller. On suit tous ces personnages et je ne les ai pas lâchés pendant 8 saisons. Moi, je suis hyper fan de... de cette série. Et quand j'ai entendu parler de ce projet, je me suis dit évidemment qu'ils repartent sur des bases à zéro, puisque l'intégralité de la série a été tournée dans les studios d'Universal qui sont à Hollywood, et c'est des studios voilà, qu'on peut visiter, et les décors sont toujours là, donc on peut encore exploiter ces décors là
ils n'ont pas été brûlés?
Alors une partie a été brûlée, okay. mais non les incendies là n'ont pas touché heureusement le plateau d'Universal, donc oui, ils vont faire une sorte de suite, spin-off, prequel, je ne sais même pas ce que c'est sur...
Spin-off pour l'instant.
C'est un spin-off pour l'instant, mais on espère quand même revoir certaines actrices, même si elles ne peuvent pas se piffrer entre elles. Et j'ai quand même hâte. Non, moi je recommande vraiment. Franchement, Hugo, t'as jamais vu toi ?
Non.
Regarde juste le premier épisode de la saison 1 sur Disney+.
Il y en a combien ?
Je te dis pas.
20 saisons, un truc comme ça ?
Non, il y a 8 saisons de 24 épisodes à 45 minutes l'épisode. Mais non, mais écoute, il y a un gros twist dans le premier épisode.
Ok.
Si vraiment t'accroches, tu vas pas lâcher. Si t'accroches pas, t'arrêtes. Mais okay. Test.
Pourquoi pas ?
Toi, je sais que Vanessa, c'est pas ton truc. T'as jamais aimé, toi ?
Non. Après, voilà, t'adhères pas. Moi, je suis pas pris là-dessus. C'est vrai que... Il y a eu beaucoup de séries dans ce genre-là, un peu moins thriller, mais du côté côte ouest, tout ça, des choses qui se sont passées.
Ouais.
Et non, j'ai jamais pu adhérer aux quatre. Je suis désolée, hein, c'est des supers actrices. Je les aime dans d'autres projets qu'elles ont fait à côté, mais j'ai jamais peut-être Marcia Cross encore dans son rôle de
Brie Van de Kamp.
Ben ouais, mais je sais pas, j'adore Terry Hatcher dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, mais j'ai jamais pu me mettre dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, Vanessa, faut que tu regardes, J'ai regardé 4 épisodes. Et non, j'y arrive pas.
Aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est une série qui date de 2004, donc c'est un peu pris un coup de vieux. T'es né en 2004 ?
Ouais.
Ouais. Tu sais que moi, j'ai découvert ça en 2004 à la télé sur M6 le soir avant d'aller au collège. Et bref, c'est conflit générationnel. Non. Mais en fait, je pense que c'est une bonne idée parce que ça permettrait justement aux gens de se... C'est la mode de revenir des séries là en ce moment. Je veux dire, il y a Buffy qui va revenir, il y a Malcolm.
Non, elle revient pas, Buffy.
Bah si.
Non.
Et bah si.
Non, elle revient pas.
C'est annoncé, si. Confirmé, Malcolm, c'est en tournage actuellement. C'est bien Desperate. Il faut que ça revienne.
Mais mince, des séries, des idées, il y en a plein, quoi.
Bah, et on est en train de faire un nouveau Superman. On est un peu en train de
dire, quoi. Ce que je veux dire, voilà.
Jurassic World 8, Mission Impossible.
Non, mais 7, mais j'avoue que ça commence à...
Des séries, des idées, il y en a plein. Bah après, oui, c'est des prises de risque de partir. Ah, c'est trop facile. Tu prends un remake, tu prends un machin.
Ouais, Disney, les live action, on a eu aussi dans pas longtemps. Ouais.
Tu vois le remake de Charmed, tu fais. D'accord.
Ouais, mais ça, c'est le problème. C'est que les gens, ils n'aiment pas les remakes, ils aiment les requels.
Mais là. Non. j'ai regardé Charmed, tout à fait. Voilà, je me suis dit, on va leur donner leur chance. Je ne suis pas du genre à dire non. C'est je laisse leur chance, ok. Même si. J'ai un a priori, je laisse leur chance et des fois je suis surprise. Donc, mais sur le Charmed, j'ai pas été pris. Et d'ailleurs, la série s'est arrêtée.
Oui, ça a pas marché. Mais
ça parle d'eux-mêmes, quoi.
Est-ce que ça serait pas un sujet d'émission, ça ?
Si,
la nostalgie, le manque de créativité à Hollywood.
Moi, c'est les reboots que j'ai du mal. En fait, les prequels, les sequels, je trouve que ça apporte toujours un plus aux séries ou aux films. Mais un reboot où tu refais tout, si l'histoire ne tient pas debout. J'ai du mal à...
Moi, il y a un reboot là qui me fait crisper à chaque fois que j'y pense, c'est Harry Potter. Ils vont tout recommencer.
Aussi, hein.
Oui, on en a parlé.
C'est la première émission.
On n'y arrive pas, quoi.
C'est horrible. Et surtout,
c'est dur.
J'ai appris
même si on veut leur laisser leur chance, on se dit...
Allez, non, mais tu sais que là, je viens d'apprendre un truc sur la série. Ils vont tourner au studio de Londres, là où ils ont tourné les films. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer les mêmes décors qu'on a vus. C'est très bizarre.
C'est vrai ? Sérieux ?
Ah, sérieux ? Ils vont tourner dans les mêmes studios.
Ouais.
Ouais, ça me fait
d'aller parler rapidement, mais moi, c'est le choix des acteurs. Faut pas...
L'acteur de Rogue ?
Oui, voilà. On en parlera pas beaucoup plus, parce qu'après, ça va faire des polémiques. Mais pour moi, il y a des choses... c'est pas trop possible de faire des choses comme ça.
Ah non, mais de toute façon, c'est même pas une question de racisme ou quoi que ce soit. L'acteur qui joue Rogue est noir de peau. Mais le problème, c'est que ils ont pris tout le reste du casting fidèle à la description de J.K. Rowling sur les livres, ouais. Sauf lui, alors que dans le livre, ils le décrivent comme quelqu'un de blanc de peau, avec un nez crochu, des choses.
Mais non. C'est parce qu'il faut rentrer dans les codes.
Oui, c'est ça. Bon, alors ça, c'est un autre sujet, mon Dieu. Mon Dieu.
Les codes, si t'es pas... Il y a certains festivals, c'est fou. Si tu respectes pas les codes, t'es pas sélectionné.
Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi.
Non, mais c'est fou. C'est fou. C'est, on part dans un monde où on est. Oui, voilà, il y a des catégories et il faut respecter les catégories.
Oui, c'est pour. Enfin, c'est de la bien-pensance, c'est un cahier des charges. Moi, je pense sincèrement que si tu veux faire un projet avec un acteur de couleur, ben, dessiner, créer un projet intégralement pour ce personnage-là, pour cet acteur-là, et qui portera à bras le corps comme étant le sien. Et on n'aura aucune polémique là-dessus parce que.
Ben après, dans Harry Potter, il y en a, donc c'est pas gênant, c'est pas le truc.
Attention, voilà. On n'a pas encore vu la tête d'Harry Potter. Tout est possible encore.
Oui, Hermione,
oui, bon, après, ils peuvent changer des choses, quoique quand même.
Moi, tant que Ron, il me le laisse roux, ça me dérange pas.
Ouais, mais il sera en fauteuil roulant. Donc,
Non, enfin, non, mais sérieux, c'est fou, c'est reboot, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Et mon Dieu, ma série, quoi. C'est quand ils parlent pendant je sais pas combien d'années qu'ils disent, on va faire, je sais qu'on s'éloigne, mais Xena, princesse guerrière, on va faire un reboot. Ça fait des années qu'ils en parlent et ça voit pas le jour. Et moi, je suis très contente que ça voit pas le jour, quoi. Parce que tu te dis, mais non, non, sérieux. C'est une série, en plus, ça avait toute sa place à ces débugs-là. Maintenant, je ne sais pas. Et puis en plus, c'était fait d'une telle manière avec beaucoup de non-dits qui donnaient sa force à la série. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est enlever complètement ces non-dits et l'ouverture d'esprit soit encore plus forte. Ouais. Je trouve ça dommage parce que c'est ce qui donnait en plus ce côté-là. Donc c'était vraiment voilà, il y avait des événements, on parlait de sujets très importants, très graves, et l'addiction. On parlait de ça, mais d'une certaine manière, avec la magie, au lieu de la drogue. Mais c'était très, très bien fait. Donc, c'est... Ouais, je trouve ça vraiment dommage de faire encore des reboots de séries. Et pour revenir à Desperate Housewives, que moi, je n'apprécie pas, je sais qu'il y a des personnes qui l'apprécient et qui m'ont dit « Ah non, ah non, ah bah non !» C'est pas possible. Voilà, ça a été la réaction première des personnes qui adorent Desperate Housewives. D'ailleurs, je les salue. Et qui me disent, Vanessa, faut que tu regardes. Faut qu'on se fasse un marathon Desperate Housewives. Je la regarde, je fais, non. Je vous adore, les filles, mais non.
Et ouais, mais bon, moi, je suis curieux de savoir. En fait, moi, je cherche pas le reboot, je cherche la continuité, en fait. Donc, soit c'est un reboot caché, pour l'instant, un spin-off, je ne sais pas.
Un spin-off, c'est pas gênant.
Spin-off, ça peut être dans le même endroit et on suit une famille différente.
Un spin-off, ça me gêne pas. Un reboot.
Moi, j'ai un problème avec les préquels. Le problème que j'ai avec les préquels qui explore des mythes, des sagas cultes, des séries, c'est quand la saga est trop ancienne et que le préquel est qualitativement l'imagerie beaucoup trop moderne. Donc à chaque fois que je vois un truc qui est moderne, qui est censé être le préquel, quand j'arrive au cœur du sujet, je fais voilà, non, ça marche pas, j'arrive pas à me dire que ça se passe avant Destination Finale 5, coucou, salut.
Ah oui.
Dans l'idée, c'est ça. Et dernière actualité du coup.
Et la dernière actualité du côté de chez Prime Video avec une suite pour le film Roadhouse, réalisé par Guy Ritchie. Et évidemment, l'acteur principal, Jake Gyllenhaal, sera de retour pour cette suite. C'était un des plus gros succès de Prime Video du côté en 2024. Ça racontait, au cas où, pour ceux qui n'ont pas vu, l'histoire d'un ancien commandant de l'UFC qui acceptait d'être videur en boîte de nuit. J'avais plutôt apprécié le film sans vraiment l'adorer. C'est vrai que le méchant qui était joué par Conor McGregor, autant il y en a qui réussissent bien à faire des transferts entre une carrière de sportif et une carrière de cinéma. Voilà, John Cena, Dwayne Johnson, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai eu un peu plus de mal. Après, il n'en a pas eu 150 encore à faire, donc à voir sur la suite. Voilà, voir ce que ça peut donner.
Je n'ai pas du tout vu le premier. J'ai vu l'affiche, c'est le truc où il a la chemise ouverte. Exactement. Ça m'a pas du tout attiré. En revanche, par contre, j'ai très très hâte de voir le prochain film de Dwayne Johnson chez A24 ou où il joue un...
Ah oui.
J'en ai parlé la dernière fois, Smashing Machine, là.
Oui, exactement. Bah, celui-là, qu'est-ce que j'ai hâte. Mais je sais pas, toi, tu l'as vu ce film sur Prime Video?
Je l'ai vu. Ou alors j'ai vu énormément de scènes. Si je l'ai pas vu, parce que je vois vraiment toute l'histoire se faire dans ma tête. Mais
pas voilà. Suffisamment marquante.
Non, voilà, ça m'a pas transcendé. Voilà, c'est la question. Vanessa, tu l'as vu peut-être?
Sur Prime?
Ouais.
Red House? Non, je ne l'ai pas encore vu parce que moi j'adore le premier, je n'y peux rien.
Oui, parce que c'est un remake.
Moi je
ne
savais même pas qu'il y avait un premier.
Red House, c'est Patrick Swayze.
Patrick Swayze, ouais.
Patrick Swayze, quand même, mince. Enfin, non, quoi. C'est pas possible. C'est comme on parlait Dirty Dancing ou des choses comme ça, ou Bodyguard. C'est des choses que. Faut pas toucher. Faut pas toucher. Et en fait, il faut que je le voie parce que j'aime beaucoup l'acteur Jake Gyllenhaal.
Ouais, c'est bien.
Ah, c'est mais bien. Non, mais je sais. Et j'aime aussi Conor McGregor. Et du coup, je me dis, il faut que je le voie. Il faut que je me fasse. Faut que je me pose une soirée pour le voir, pour regarder ce qu'ils en ont fait, quoi. Mais c'est vrai que j'ai du mal, et je l'avais dit hein, quand on en avait parlé, j'ai beaucoup de mal à me dire c'est plus Patrick Swayze, c'est plus ce que j'ai vu, et je sais pas, je me dis mon Dieu, j'espère qu'ils ont pas tout changé, parce que il y a une histoire forte et tout, avec utilisation de ses arts martiaux. J'espère qu'il y a ce personnage de l'aveugle qui est musicien. Voilà, il y a plein de choses. Ça me donne envie de le regarder et en même temps, je me dis mince. Je vais me dire, ah bah non, c'est pas pareil. Ah non. J'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce m'intéresse, mais je vois déjà, et c'est dommage, que au lieu de se passer dans une ferme comme Roadhouse, ça se passe sur un bateau. Le mec, il est sur un bateau.
Bah, déjà, c'est un film qui sort sur Prime Video, donc s'il passe pas par le cinéma, c'est qu'on part déjà avec une balle dans le pied.
Oui, quoi. Et puis après, tu te dis, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi me faire... Puis c'est pas une suite, c'est un remake. Donc ça m'énerve un peu quoi. Ou alors tu l'appelles Roadhouse 2.
Voilà. Ah bah moi je peux me permettre une petite actualité avec Jake Gyllenhaal, comme ça je fais un petit lien, je rajoute un petit truc et c'est mignon et on termine bien. Il va tourner, je ne sais pas encore, avec M. Night Shyamalan.
Ok. C'était pour Trap ça qu'il avait fait.
Il avait fait Trap donc avec Josh Hartnett et là il fait un nouveau film. Mais alors attention, c'est un film romantique. Coécrit avec l'auteur de N'oublie jamais, de Il était temps, de tous ces films romantiques, et ils ont fait quelque chose ensemble, et ça va être extraordinaire. Moi, je veux voir M. Night Shyamalan me raconter des histoires d'amour. Et...
On sait qui sera l'actrice féminine.
Ah oui, moi, je veux voir ça.
Oui, on sait qui sera l'actrice féminine. Il s'agit de Daisy Edgar Jones, qu'on a vu dans Là où chantent les écrevisses et plein d'autres projets. C'est une actrice qui est en train de monter actuellement. Donc non, il y a un très beau casting. Et bon, c'est toujours un prétexte pour moi à la radio de parler de M. Night Shyamalan, qui, je le rappelle à chaque fois, est mon réalisateur préféré.
Non, mais il est excellent. Il est excellent. Enfin, franchement. Et puis, de se dire que tu vas avoir un film romantique de lui, waouh!
Ouais, mais
le challenge.
Il y a toujours un peu d'amour dans ces films quelque part.
Oui.
Dans Trap, c'était l'amour d'un père pour sa fille. Il y a toujours ça quelque part. Mais là, c'est le cœur du film, donc c'est chouette.
Life could be a dream. Life could be a dream.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup à toi, Vanessa.
Merci, Hugo.
Et merci beaucoup à toi, Clément.
Merci, Hugo.
Et on se retrouve cette fois-ci dans 2 semaines pour l'épisode numéro 4. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart.